voudrais commencer par deux allusions au pape François. La première, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et donc le pape chaque mois propose des intentions de prière à son club de priants de par le monde. Il paraît quand même une petite vidéo associée chaque mois à cet apostolat de la prière. Et il y a toujours une intention d'un premier type, général ou par rapport à quelque chose qui demande de la compassion. Ici, c'est le pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. Mais il y a toujours une deuxième intention qui s'appelait auparavant l'intention missionnaire, mais maintenant on ne le met plus parce que le concept de mission n'est plus ce que faisaient les Européens au XIXe siècle. Et dans cette intention, le pape aborde chaque fois un continent différent, et cette fois-ci c'est pour l'Europe. Pour que les peuples d'Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de l'Évangile, qui donne à la vie joie et espérance. Voilà, j'espère contribuer à la réalisation de cette intention du pape, redécouvrir la beauté, la bonté et la vérité de l'Évangile. Deuxième allusion au pape François, c'est que l'année de la miséricorde, pour moi, a élargi le champ de la miséricorde parce que le pape a fait énormément allusion aux œuvres de miséricorde, alors que dans mon esprit, la miséricorde, c'était surtout le pardon, l'attitude de pardon. Et ce que je vous donne ce soir date de l'ancien Thierry, avant François. Donc, la miséricorde, fondement de la morale, c'est la miséricorde en tant que pardon. Ce ne sont pas les œuvres de miséricorde dont je vais parler. Alors, je vous signale aussi que la section 2 viendra avant la section 1 sur la feuille de route, mais ce n'est pas très grave. En un mot, s'il fallait expliquer pourquoi le pardon est le fondement de la morale, il faudrait dire que c'est parce que le pardon est gratuit. Le pardon est le lieu où nous faisons l'expérience que l'amour est gratuit, c'est-à-dire qu'il se donne à nous sans condition. Le pardon n'est pas mesuré par la faute. Parce qu'il est gratuit, le pardon est aussi créateur. Il crée ou recrée l'innocence de la personne pardonnée. Cette innocence n'est pas méritée, elle est donnée. Pour un chrétien, l'innocence n'est pas ce que nous avons perdu il y a longtemps dans le jardin de la Genèse, collectivement comme humanité, ni ce que chacun de nous a perdu il y a longtemps quand nous avons cessé d'être des enfants. L'innocence est dans l'avenir pour les chrétiens. Elle est ce que Dieu donne aux hommes. Notre joie est que Dieu nous rend de plus en plus innocents. Nous sommes appelés à être innocents comme Dieu est innocent. Soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait. Matthieu 5, 48. Être saint comme Dieu est saint, c'est être incapable de violence, comme Dieu est incapable de violence. C'est n'être que bonté, et cela est notre vocation, et c'est en tout cas pour cela que Jésus est venu. Mais il ne suffit pas de le savoir. Le pardon n'est pas une nouvelle idéologie, appelé à remplacer les autres idéologies et sur le même plan qu'elles. Le pardon, comme Jésus, est un événement. Il faut à un moment le recevoir et le vivre. Le pardon nous est donné dans une histoire. Il s'inscrit à un moment donné dans notre devenir, non comme une idée, mais comme une source de vie. Et c'est pourquoi tout discours sur le pardon est en même temps un témoignage, un événement qui suscite le désir. Alors je pars de ce lieu central pour la vie de l'humanité, et même pour toute l'histoire cosmique, qu'est la mort de Jésus sur la croix. Ce que vous voyez est une représentation de type occidental de la Trinité. Donc la représentation orientale, c'est l'hospitalité d'Abraham, dont l'icône de Roubloff est la plus connue. Donc les trois anges qui se sont présentés chez Abraham, et qui tout en étant trois n'étaient qu'un. Mais en Occident, la représentation de la Trinité qui s'est développée est celle-ci où l'Église a pris position pour dire que c'était la seule autorisée, donc en Occident, parce que les éléments qui y sont représentés sont issus de l'Écriture sainte. En bas, vous avez la colombe dont il est parlé au baptême du Christ en Saint-Luc. Au centre, le mystère de la croix, le plus historique et le plus réel qu'on puisse penser. Et la figure d'un homme avancé de jour et plein de sagesse vient de Daniel 7. Il y a une grande audace à représenter le Père. Quand j'ai présenté cette icône de la Trinité occidentale, il y avait parmi mes étudiants une japonaise qui était vraiment presque choquée qu'on ose représenter le Père. Dans la Trinité de Roubloff, la question ne se pose pas puisqu'on ne sait pas qui est le Père. On ne le sait pas avec certitude. Il y a des interprétations, mais on n'a pas osé dire qui est le Père. Mais je le rappelle ici parce que parfois, nous avons effectivement une tendance à mettre la main sur Dieu. Je crois qu'on peut quand même le représenter, hein, et même de façon politiquement un peu absurde, en lui mettant une tiare, ce qui était une glorification de la papauté à cette époque. Mais on peut le faire à cause du mystère qui est dévoilé là-dedans. Cette trinité se trouve à Sonntagberg, donc c'est en Basse-Autriche, hein, la région autour de Vienne. Et vous voyez qu'elle dégage une grande chaleur. Elle montre l'instant où prend feu le foyer que le Christ est venu allumer sur la terre. Telle est la source définitive à laquelle s'abreuve la morale chrétienne. Dans un premier temps, il nous faut faire abstraction de la gloire du Christ, essayer d'oublier le Père et son grand manteau rouge, et voir le Christ seul sur la croix, tel qu'il a été vu au Golgotha, par les foules, par ceux qui l'ont suivi et par ceux qui l'ont rejeté. Il meurt trahi et abandonné. Cependant, devant la souffrance humaine, quand ce n'est plus la révolte qui parle, un retournement se produit dans le cœur de l'homme. Une douceur y est enfantée qui décide de rejeter la violence. L'Eucharistie a donné la clé d'interprétation de cette mort. Je donne ma vie pour vous. Elle ne m'est pas arrachée. Toute la vie du Christ témoigne de la même chose. Il a vécu sa vie comme un don du Père fait aux hommes. Et la représentation de Sonntagberg montre dans le visage du Père la douceur et la compassion de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Le Christ est tourné vers nous. Refusé par les hommes, dit le Père Jean-Marie Hénault, il n'y a aucun moyen pour Jésus de se sauver en Dieu et de se retourner directement vers son Père. Il y a une identité parfaite pour lui entre passer de ce monde à son Père et aimer les siens qui sont dans ce monde jusqu'au bout. Aucune fuite en Dieu n'est possible. Le chemin vers son Père passe par tous les siens. Contrairement à la majorité des représentations occidentales de la Trinité, la colombe, donc comme à l'église du Collège Saint-Michel, hein, la colombe n'est pas entre le Père et le Fils, comme à l'église, mais ici, elle est entre le Fils et ceux qui la regardent. Donc, quand elle est entre le Père et le Fils, elle manifeste la communion du Père et du Fils. Mais ici, ce qui est signifié, c'est que dans la mort du Christ par amour, nous est livré l'Esprit Saint. Et de ce foyer est répandu un amour qui n'est pas de fabrication humaine, mais qui nous a été donné. Je vous lis donc la petite phrase qui servait de cartouche à cette séance. l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Lorsque nous étions sans force, c'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour des impies. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. La contemplation de la passion de Jésus, unie aux paroles qu'il a dites avant de mourir, fait entrer dans le mystère du pardon. Lorsqu'on regarde les blessures physiques qu'il a reçues, la solitude dans laquelle ses amis l'ont abandonné, la férocité et la bêtise avec lesquelles il a été jugé et condamné à mort, on peut être tenté de vouloir venger Jésus. Donc, ce chef de bande dont l'histoire est racontée dans le livre « La croix et le poignard », Nicky Cruz, qui après est devenu un pasteur lui-même, la première fois qu'il a entendu le pasteur Wilkerson raconter la passion de Jésus, il s'est levé et il a dit « Si j'avais été là, j'aurais empêché cela. » De dire, j'aurais pris une mitraillette, hein, et Hérode, Pilate et les autres. Bon. Venger Jésus. C'est scandaleux, la mort de l'innocent. Mais si Jésus porte sa croix, et s'il y reste attaché pendant des heures en s'asphyxiant peu à peu, ce n'est pas à cause de la brutalité des hommes seulement. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il en est arrivé là, volontairement, comme nous disons dans la prière eucharistique, au moment d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il n'y a plus à en vouloir à personne. La violence qui s'abat sur le Christ tombe dans le vide. Elle ne rencontre aucune résistance, aucun désir de se défendre ou de riposter. Elle est pardonnée, soufferte, anéantie. Le Christ refuse d'interposer entre ses ennemis et lui la moindre barrière. Riposte, rancune, exigence de justice rétributive, rien ne peut les séparer de lui. La mort du Christ en croix est la conversion, pour ceux qui l'accueillent, de l'absurde et de la violence en pénétration de la non-violence de l'amour. Cette non-violence totale, absolue, sans réserve, jusqu'au bout, dit saint Jean, est guérissante pour les plaies de toutes les violences subies sans amour. Donc je parle ici de la croix du Christ d'abord comme guérison de ce que nous avons subi. La non-violence radicale de Jésus donne à celui qui accueille cette non-violence de pouvoir revivre ses propres blessures avec amour. Le mal est désarmé. On peut aimer les pécheurs. Le bien est donc de nouveau possible. Le pardon est ainsi ce qui permet la justice. La justice, c'est d'agir envers quelqu'un selon sa dignité et non selon ses actes. Le pardon permet la justice, il ne s'y oppose pas. Le pardon exige la justice. Il n'est pas une indulgence complice. Mais il exige la justice en donnant la non-violence qui rend possible de repartir, de recroire à l'avenir. Nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous faisons le mal. C'est le Christ qui révèle que l'amour infini est blessé par nos péchés, par nos refus de rester en relation, par nos désolidarisations. Le Christ révèle quel amour est blessé, quel amour est présent. Le pardon du Christ nous met ainsi devant un choix. Accueillir la miséricorde qui anéantit l'injustice en la pâtissant par amour, ou bien rester prisonnier de l'accusateur qui enferme dans l'injustice en ne lâchant jamais aucune faute. Celui qui accuse nos frères jour et nuit, dit la liturgie, l'Apocalypse. La culpabilisation n'est pas l'œuvre de Dieu, elle est le contraire de la miséricorde. Elle enferme dans le péché sans offrir d'issue. tandis que le pardon dévoile avec douceur, en la souffrant, l'injustice qui a désormais perdu son venin. Le pardon de Jésus nous rend capables de pardonner à notre tour, y compris à nous-mêmes. Mais il le fait de façon inattendue. Ce que le Christ nous offre en effet, c'est son amitié. Celle-ci est pour nous réconfortante et guérissante. Mais ce réconfort et cette guérison nous amènent à l'aimer lui, et non plus seulement ces cadeaux de réconfort et de guérison. Jésus nous touche parce qu'il est venu volontairement rejoindre nos souffrances réelles, les douleurs physiques, les larmes, l'angoisse, la solitude, le sentiment d'abandon. Ce que nous avons eu à pâtir du mal qui est dans le monde, nous pouvons, grâce à lui, grâce à notre amitié pour lui, le vivre comme quelque chose qui nous rapproche de lui. Cela ne s'explique pas aux yeux de la raison. Seule l'amitié le comprend. Mais de la sorte, notre patience, notre propre passion, est débarrassée de la colère, du réflexe de reporter sur nos malfaiteurs le mal que nous subissons. Le mal est vaincu, il est évacué, nous pouvons aimer nos ennemis. Nous pouvons aimer la vie telle qu'elle est. Et être pour les autres la source de bonté que nous sommes, source débarrassée de son bouchon de rancœur et d'accusation permanente. Voilà donc pour le centre du mystère de tout comportement éthique, de tout comportement qui consiste à faire le bien, c'est d'être rétabli dans la bonté que nous sommes par un pardon qui nous rend cette innocence et qui nous rend capable d'être bon envers tous, puisqu'ils ne sont plus nos ennemis. Alors maintenant, je vais reprendre la manière philosophique dont le Père Chapelle lisait ce mystère de la liberté et de la miséricorde pour parler d'éthique de façon générale. Il part de la parabole du Fils prodigue, il parle de Dieu, mais il n'impose pas de croire à l'Écriture, il ne fait pas de la théologie, hein, même si ça paraîtrait étonnant, c'est une réflexion sur la liberté. Néanmoins, il part donc de la parabole du Fils prodigue. Alors, vous avez le plan dans l'encadré sur vos feuilles. Il y a d'abord une histoire singulière, celle qui est racontée en Luc 15, et puis il y a un élargissement philosophique à l'expérience de l'homme pardonné, c'est le grand B. La première partie, l'histoire singulière, est racontée deux fois. La première fois dans la suite de l'histoire, le 1, et ensuite dans sa relecture, parce que nous accédons à Dieu par la relecture. Le pape Benoît XVI donnait une très grande importance à l'anamnèse, parce que, disait-il, c'est par anamnèse que nous connaissons Dieu, puisqu'il est à l'origine, au-delà de notre vécu, il est à l'origine de nous. Et donc je vais prendre maintenant la parabole du Fils prodigue. Je vais vous donner d'autres images. Une histoire singulière. Il était une fois dans ce monde un enfant prodigue. Il avait dit à son père de lui donner sa part et s'en était parti au loin. Il dissipa son bien quand survint dans cette terre lointaine une famine. La suite de l'histoire, articulée par la pensée du Père Chapelle, formée par le Père Fessard et d'autres, en quatre étapes. Quatre semaines des exercices. Petit A, le prodigue en exil. Là où il est maintenant, le prodigue n'est plus nulle part. Il est sans racines, sans patrie. Le monde est perdu et ne nourrit plus son homme. Voilà l'homme et sa pénurie, Saint Luc nous dit, il commença à manquer. Sa suffisance, avec laquelle il était parti de la maison, ne lui suffit plus. L'inquiétude devient saisissante, comme une proximité et un contact qui en lui s'institue et se rompt à chaque instant. Personne ne lui donnait. C'est l'homme ou le monde de l'angoisse. L'impossibilité d'en rester là où il se trouve, la faim et l'exil, évoquent d'autres possibles. Mais la projection d'anciens fantasmes institue d'abord une condamnation cruelle. Il pense aux ouvriers de son père et constate « Moi, je suis ici à périr ». Il y en a d'autres qui vivent, moi je suis ici à périr. L'impasse infernale de sa situation le contraint à trouver une issue. Et rentrant à lui-même, il dit « Je vais partir. Je vais partir vers cet autre monde qui n'était plus même un souvenir. Chez mon père, les ouvriers. » Mais la condamnation de l'angoisse est devenue l'aveu d'une espérance. Le prodigue s'est désavoué. Ça, c'est ce qui se passe en exil. Petit b, la décision du malheureux. L'enfant né en exil se reconnaît une patrie, chez mon père. Le déchirement de la situation imposait le débat. Périr ici ou chez mon père, avoir du pain en abondance. Ici, la triste réalité à confirmer ou à nier. Là-bas, une image à renier ou à réaffirmer. L'image de l'autre monde possible devient en lui une possibilité réelle. La puissance de l'image se fait parole encore à venir. Je veux aller vers mon père et lui dire, quand on passe de l'image au projet d'une parole. Telle est la décision prise, préférer l'image archaïque ou enfantine à la réalité présente, dure et misérable. Il n'y a plus de prodigue, l'enfant. L'enfant partit et vint vers son père. Après la décision, petit c, le chemin. Le chemin de l'enfant. Sur la route, l'image de la maison du père et de l'abondance des mercenaires se fait réalité aux dépens de sa peine, puisqu'il avance vers elle. L'image le meut, puisque l'enfant s'est mis en route. L'image en lui devient vie. L'enfant en devient passif. Ayant pris chair de la chair de l'enfant, l'image, d'abord inopérante, simple souvenir, est devenue la force astreignante qui le conduit. L'image force l'enfant au chemin du retour. Ce retournement, retour au point de départ, est conversion et désaveu. La route du retour est accusation de la faute du départ et dénonciation de celle-ci. L'enfant pâtit le poids du chemin, c'est le poids conjugué de l'image du père et de sa faute. Mais voici, l'image qui en lui se faisait mouvement et lui donnait référence pour la route, lui échappe. En prenant le chemin du retour, tout ne paraissait-il pas résolu? Le prodigue se raccrochait à l'image qui l'aidait à s'humilier en reconnaissant « j'ai péché » et qui l'aidait à se convertir. Mais à mesure qu'approche le terme du retour, le pauvre enfant se voit dépouillé de ses dernières prétentions. La solution ne dépend pas de lui, mais de ce que dira son père. L'image de la maison paternelle s'estompe. L'enfant ne peut plus s'y accrocher, ni s'en humilier, ni s'y convertir. L'enfant a été conduit par la nostalgie de son désir et l'image béatifiante. Maintenant, l'image du désir est morte. l'enfant, donc celui qui n'a pas encore la parole, est à la merci du Père et d'une parole non encore formulée. Sa vie dépend d'une parole qu'il ne dira pas, mais qu'un autre a le pouvoir de prononcer. Sur le chemin, le voici escorté par cette parole silencieuse encore, par ce silence qui grandit comme l'attente de la parole dont il ne peut savoir ce qu'elle sera. C'était donc l'étape du cheminement, petit dé, l'accueil du Fils. Le Père est sur la route qui l'accueille. Il fait taire l'enfant et embrasse son Fils. C'est la réconciliation. Ici, le Père Chapelle rappelle qu'en allemand, réconciliation se dit Versöhnung, dans laquelle on peut retrouver le mot Sohn, qui est le mot Fils. Donc réconciliation comme rétablissement de la filiation. L'image disparue en route réapparaît comme geste et parole du Père, qui réintroduit dans la maison. Le monde a pour le Fils réconcilié un nouveau visage et s'offre comme une vie nouvelle. La parole du Père lui ouvre un nouveau séjour dans la bonté. La même parole paternelle lui offre en cette demeure sa situation familière et laborieuse. C'est plus qu'une réconciliation, c'est une prévenance puisqu'il est dit « le Père courut se jeter à son cou ». Le discours de l'aveu est abrégé. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Le Père ne permet pas qu'il dise « je ne mérite plus d'être appelé ton fils ». Le discours de l'aveu est abrégé, le pardon est la plus belle fête, l'enfant mort vit à nouveau, l'enfant était perdu, le Père a trouvé un fils. Alors ce qui est intéressant, donc, c'est qu'après cette lecture en quatre étapes de l'histoire du prodigue, le Père Chapelle fait une relecture. Il dit 10 ans après, mais pour chacun de nous c'est différent, ça peut être 20 ans après, 50 ans après. Le prodigue se souvient, et dans la mémoire, qui change les choses en leur visage d'éternité, son histoire se transfigure. Petit a, la chance de l'exil. Le déracinement et l'angoisse de l'exil se révèlent maintenant, 10 ans après, comme la chance de sa vie. S'il n'avait pas été malheureux, il ne serait jamais rentré chez son père et serait resté sans maison ni joie. Mais Dieu est né en exil. Donc, faveur et grâce que cet exil. Réentendre le Felix culpa de saint Augustin. C'est grâce à la bonté et à la fidélité du Père que lui a été donnée l'image nostalgique et salvatrice de la maison paternelle. Si en lui son angoisse s'est faite image, c'est que la bonté du Père en lui s'était faite souvenir. C'était un don du Père. Relecture de la décision du malheureux. L'appel à l'option. En fait, il n'y avait pas pensé. Il était d'autres issues à son angoisse que le retour au Père. D'autres terres et d'autres demeures où ne régnait pas, la famine lui aurait été ouverte. Mais le choix s'était réduit à une alternative. Être malheureux tout seul ou heureux avec le Père. Il s'était cru poussé par la faim et la peur de périr. S'il a choisi le retour, c'est surtout qu'il était attiré, appelé par le Père. Il s'était imaginé loin. Le Père était proche encore puisque son image ne l'avait pas quitté. Il lui a révélé que c'était la présence du Père qui secrètement l'avait décidé. Relecture du chemin de l'enfant. Le retour à la maison. Tout le long du chemin, il avait donc été conduit, puisqu'il était attiré. Il s'était désolé au fur et à mesure que se rapprochait le terme de sa route. Ah, il le voit aujourd'hui, 10 ans après, plus il approchait du Père qu'il attendait, plus la pensée et la présence du Père l'avaient longuement travaillé. Plus se faisait proche la maison paternelle, plus il avait pris conscience de sa faute, tout comme de l'invincible reproche de la souffrance de son Père. C'est ça qui apparaît dans la relecture du péché. Dieu a souffert de mon péché, mais il ne me le révèle qu'après la réconciliation. Plus le Père se faisait proche, plus il aurait pu être assuré de se trouver à la merci de sa parole et de sa bonté, car le Père, fidèle et sa compassion, méritait plus confiance que ses imaginaires souvenirs. Relecture de l'accueil, l'harmonie découverte. L'accueil du Père avait exorcisé ses angoisses et guéri sa faim. Il avait justifié sa décision de retour. Il avait donné sens à son cheminement. Il avait comblé son espérance. En fait, ce retour chez le Père, ça avait été la découverte de sa demeure. Avant sa fugue, il était chez son Père. Depuis l'accueil reçu, chez son Père, il était chez lui. Il était libre. Le travail de la ferme et la joie des moissons, désormais, tout était à lui. Partage. Pour la première fois, il était le fils de son Père. Communion. 10 ans après, le prodigue comprend son histoire à une autre profondeur. Ce qu'il a vécu dans la succession de moments imprévisibles lui apparaît désormais comme une grâce continue. Il s'était imaginé livré à lui-même et avait vécu tous les événements de son seul point de vue. Avec le temps, il sait maintenant la fidélité du Père et il lit désormais sa vie d'un autre point de vue, à la lumière de la bonté paternelle, toujours présente et agissante en lui. Voilà donc la lecture que fait le Père Chapelle de cette parabole du fils prodigue, à reprendre étape par étape, y compris dans sa relecture. Et maintenant, voici ce que le Père Chapelle dit de l'homme qui est sur la terre, l'homme pardonné. Eh bien, de nouveau, d'abord un récit et puis une relecture. Le récit, c'est l'expérience du pardon. L'expérience du pardon vérifie dans la pratique le donné de la parabole. Petit a, c'était l'exil, maintenant c'est la faute. L'homme a fait mal, sans rien vouloir entendre. Je me rappelle, adolescent, les reproches qu'un de mes parents me faisait en disant « Je te l'avais bien dit ». 35 ans après, je me suis rappelé, ce qu'il voulait me dire, c'est « Tu ne m'écoutes pas ». D'où le malaise, comme la morsure d'une situation contestée et qui conteste la personne. C'est le remords. L'homme peut recevoir alors la parole pour son mal. « J'ai mal agi. C'est ma faute. » Ainsi se présente la reconnaissance, certes encore enveloppée, d'un désaveu nécessaire, c'est ma faute, et d'un aveu possible, j'ai mal agi. Ce remords, si pénible qu'il soit, est ce qui peut amener à l'étape 2, donc la décision du prodigue, ici la conversion. L'homme sait que sa faute n'est pas sans pardon. Il se rappelle la bonté première capable de rendre ce qui était perdu. L'homme en exil se sait une patrie. Il hésite, il choisit. Il se relève pour aller trouver son pardon. Mais s'il le trouve, c'est pour l'avoir demandé, par son changement de direction, retournement de sens, sa conversion. Troisième étape, le chemin. Il ne suffit pas de se mettre en route. Le chemin, c'est la contrition. Encore faut-il que l'homme aille effectivement demander le pardon et se mettre à la merci de celui qui pardonne. Car l'épreuve du mal réel, l'angoisse, le remords, et de la possibilité du mieux, il existe un pardon, ne met pas un terme à la peine. Certes, Dieu pardonne, on le sait, mais me pardonne-t-il ? Le passage de la mémoire générale, abstraite, au concret de la liberté réconciliée ne dépend pas de moi. Dieu est un inquiétant silence. Et me voici à la merci d'une parole sur laquelle je suis sans droit ni prise. Me voici travaillé, façonné par cette douloureuse espérance qui me brise. Briser en latin, conterere, c'est la contrition. L'accueil du Père, ici, quatrième étape, la paix. À l'expérience du pardon reçu, la paix, très certaine, est donnée. Dieu pardonne, Dieu me pardonne. Le pardon nous advient comme un don nouveau, pardonné, Père donneur, et c'est donné de nouveau, hein. C'est confirmer le don. Le pardon nous advient comme un don nouveau qui parfait le don premier et rend à la joie entière. C'est l'absolution de la faute, cette dissolution, et l'intimité de la réconciliation. La parole de la miséricorde se fait écho en nous comme un chant, une divine résonance. Donc, c'est une expérience que l'on peut faire en petit ou en grand, celle du pardon qui a été décrite ici, mais qui est accessible à tout homme. Alors, en relisant cette expérience, le Père Chapelle ne décline plus quatre points. Il dit simplement ceci. Cette expérience de l'homme pardonné peut et doit, comme la parabole du prodigue, être reprise dans la mémoire où s'est inscrite l'œuvre de Dieu. Dieu a donné le remords comme une grâce. Dieu, par sa présence, a ouvert à la conversion. C'est Dieu qui patiemment a agi pour purifier le cœur en en broyant, en contrition, l'impureté. Et Dieu a réconcilié en se donnant lui-même et tout entier en partage. Cette expérience de l'homme pardonné ne vérifie pas seulement dans le concret de nos vies particulières la parabole de l'enfant prodigue. Cette expérience se déploie en réalité au rythme de la liberté de chacun de nous, sa liberté spirituelle, qui refait ce trajet et se découvre de plus en plus familièrement et finalement toujours réconcilié dans sa référence à la gratuité et à la plénitude de l'absolu. Ce que le Père Chapelle essaye d'indiquer ici, c'est que la liberté qui fait l'expérience du pardon, et qui l'a refait pour nous, qui l'a refait à des niveaux différents, devient de plus en plus dépendante de son Créateur. Et c'est que la vérité de sa vie n'est plus dans son point de vue à elle, ni sur elle-même, ni sur sa faute, mais dans celui qui veut se donner à elle et qui se redonne. C'est ça l'espérance. Dieu a donné, le péché nous fait vivre sur cette terre comme un exil, mais en fait Dieu redonne, il rétablit la création dans son innocence et la familiarité qu'il veut avec les hommes. Mais nous en faisons l'expérience, je dis, de façon répétitive, et, espérons-le, chaque fois plus assurée de Dieu. Alors maintenant, je passe à ma troisième section. Quel est le rapport de tout ceci avec la morale ? On peut déjà voir, si on comprend le Père Chapelle, que pour qu'il y ait liberté, il faut une liberté qui se laisse restaurer dans un monde où le péché l'a abîmé, donc à la fois blessé et rendu blessante. Mais je vais développer un peu plus pourquoi la miséricorde est le fondement de la morale. Premier point, c'est que la morale est une question de communion Donc ce n'est pas des actes à poser ou à ne pas poser d'abord, c'est une question de communion. Or, dans le rapport aux autres, sur les autres et moi, la miséricorde doit intervenir pour rétablir la communion. Être une personne, c'est comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, être un nœud de relation. Le mystère de la personne humaine consiste en ceci, que nous existons les uns par les autres. Et même à cause de cela, comme on peut le lire dans Jean 17, les uns dans les autres. Donc ce que je dis est tellement à l'opposé du libéralisme économique et politique actuel que si vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a du brouillard culturel dans vos oreilles, mais enlevez les bouchons. Nous existons les uns par les autres. L'individualisme ne sauvera personne, jamais. La communion entre les personnes est à la fois un lien entre les autres et nous, un lien, et ce qu'il y a de plus libre. En effet, il n'y a de communion entre les autres et moi que par l'accueil que je leur fais. Quoique appelé par la présence de l'autre, cet accueil est en même temps gratuit de ma part. Il dépend de ma liberté comme initiative. Personne n'est obligé d'avoir une relation harmonieuse avec un autre. Ça n'advient pas par nécessité. C'est parce que ça a du goût et que librement nous suivons ce bon goût de la communion. Donc la présence d'autrui ne suffit pas à provoquer la communion. Accepter que nous existons les uns par les autres, c'est reconnaître, une étape de plus, que tout autre être humain est une grâce pour moi. Ce n'est pas peu de chose que de se rendre compte que, même pécheur, l'autre est un signe de la bonté incessante, bonté avec une majuscule, à mon égard. De se rendre compte que, moi aussi, quels que soient mes sentiments d'être sans valeur ou la reconnaissance de mon péché, je reste un signe de grâce pour autrui. La possibilité de la communion est affirmation que l'altérité est bienfaisante. Voir que nous existons les uns par les autres, c'est reconnaître que j'ai été rendu capable d'aimer à mon tour, par l'amour gratuit que j'ai reçu d'autrui. La bonté n'est pas une question d'effort, mais de flux. C'est ce que Augustin essaie de dire en combattant le pélagianisme. Deuxième étape après l'altérité, c'est la liberté d'être en communion à une origine. La capacité d'accueillir autrui, même pécheur, est un acte de liberté profonde. Et l'homme peut reconnaître qu'il lui est donné d'être capable de cet acte. Il découvre alors que la source de cet acte de liberté, la source de la bonté, donc la source de toute morale, est la liberté créatrice qui se communique elle-même. Elle est le Père qui attend toujours d'être accueilli, comme le Père attend dans la parabole du Fils prodigue. Petit C, une communion sans exclusive. À la différence de l'amour par lequel nous aimons ceux qui nous aiment, au-delà de cet amour-là, qui pour tous est le commencement, la morale se caractérise par l'universalité. Donc par l'universalité abstraite de Kant, qui est quand même un reflet d'universalité, mais l'universalité de la communion. Si je crois que tout homme est mystérieusement pour moi une source de grâce, je ne peux plus exclure personne du droit à influencer ma vie. Tous existent par tous. Et c'est ce qui nous fait espérer en cette première semaine de l'Avent la venue du Christ à la fin des temps, du Christ total, c'est-à-dire avec tous les membres de son corps, tous en communion avec tous. Mais on voit immédiatement qu'un tel accueil sans exclusive, c'est l'équivalent du pardon. Alors, deuxième étape pour expliquer la miséricorde au fondement de la morale, c'est le grand B. La miséricorde libère de la captivité et d'une voie en cul-de-sac. Quelle est cette voie sans issue? Alors que je vis de ce que je reçois par mon ouverture aux autres, à tous les autres sans exclusive a priori, dès que la rancune me fait éviter quelqu'un, me fait avoir peur de le rencontrer, je me ferme à une source potentielle de bonté envers moi. J'empêche également la bonté qui sourd en moi de couler vers lui. Bref, par la coupure de la relation, je me transforme, du point de vue de cette relation-là, en un cul-de-sac. Pour reprendre la belle image géographique d'Israël, le lac de Tibériade est vivant et plein de poissons parce que le Jourdain peut le traverser. Il ne s'y arrête pas, tandis que la mer morte est pour lui une voie sans issue et sans retour, où la vie s'arrête et où ni le poisson ni les plantes marines ne peuvent se développer. Définition de la haine. Haïr quelqu'un, c'est lui signifier « Toi, tu ne m'aimeras pas ». C'est-à-dire « Je n'ai rien à recevoir de toi ». Démasqué par le Christ en croix, le péché apparaît dans son fond comme le refus de rester en relation. Le refus de pardonner, refus meurtrier pour moi comme pour l'autre, étranglant ce qui doit pouvoir couler entre nous. Le péché est dévoilé en même temps comme injustice et comme complicité. Il est une injustice parce qu'il dénie à quelqu'un le droit d'être une altérité bienfaisante. Il est complicité pour nous les hommes parce qu'il est connivence avec un péché antérieur. La rancune, le refus de pardonner, imite le mal qu'on m'a fait. Ce que l'autre n'a pas pu me donner, peut-être parce qu'il ne l'a pas lui-même reçu, et en tout cas parce qu'il n'a pas été entièrement libre, entièrement gratuit dans son amour, ce que l'autre n'a pas pu me donner a marqué maintenant ma liberté et l'a privé de sa gratuité foncière, de sa capacité d'accueillir toute autre personne pour rien, naturellement. Et le pardon desserre le goulot établi par la rancune dans la relation à l'autre et aux autres. La rancune, le péché, est une prison. Le pardon en fait sauter les portes. Il rétablit la possibilité pour la bonté d'être un flux. Beau programme, n'est-ce pas? Mais vouloir pardonner, c'est implorer le Christ. Mais dans mon cœur, le pardon à telle personne, dont sinon je ne reçois pas l'amour. C'est ça le pardon chrétien. Mais dans mon cœur, le pardon à telle personne, donc à qui j'en veux, dont sinon je ne reçois pas l'amour. Remarquez que cette attitude vaut aussi dans nos relations avec ceux qui ont quitté cette vie, puisque la relation avec eux n'est pas anéantie, comme le dit la préface des défunts, mais elle est transformée. Deuxième élément de libération de la miséricorde et son lien avec la morale, c'est que la miséricorde fait entrevoir la possibilité du bonheur pour le pécheur. Le malheur du pécheur est la solitude en cul-de-sac de l'homme qui se sent coupé des relations autour de lui, relations qui autrefois l'ont fait vivre. Il n'en est pas coupé, mais lui-même s'est fermé à elle. Des murs le séparent des autres. Plus exactement, il s'y est laissé enfermer par le péché. Le péché décrit comme cette force agissante dont Paul parle, pas tel ou tel acte de péché, mais le péché qui est à l'œuvre dans le monde. La somme des péchés passés qui continue à infecter et infester les relations et les actes d'aujourd'hui. Mais quand le pécheur se sent séparé des autres, il vit dans le sentiment que le bonheur lui est interdit. C'est l'élément douloureux du remords. Voire même qu'il en a perdu la perspective et le goût. C'est l'angoisse. Le pardon offert vient faire éclater cette illusion et ses murs. Le pardon vient rouvrir la possibilité d'aimer ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Bref, d'accueillir les autres tels qu'ils sont. Et en cela consiste le bonheur. Être capable d'aimer toutes les personnes et toutes les créatures, d'être en paix avec tous et toutes. Comme pour le Christ, pardonner à ses ennemis ne se fait pas sans souffrance, mais en accueillant, par amour, la violence d'autrui. Ceux qui accueillent le pardon du Christ laissent cette violence d'autrui s'éteindre sur eux. Le pardon rétablit de façon imméritée le droit au bonheur. Quand on l'a reçu de celui qu'on a offensé, il n'est plus nécessaire de se culpabiliser ni de se punir. On peut accueillir la vie. Ainsi, le pardon rétablit la liberté de la personne que le péché, la rancune, tenait captive. La capacité d'aimer ses ennemis est le secret de la liberté véritable et du bonheur. Cette liberté nous est communiquée par Dieu lui-même, l'amour source. Le Christ nous rend l'accès au Père comme Père, comme liberté d'aimer même ses ennemis, qui communique sa liberté, comme gratuité. Dieu est gratuité, capacité d'aimer sans raison, d'aimer à tort et à travers, mais comme gratuité qui se communique, qui fait de nous des êtres de grâce. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Quand je parle ici du pardon, on ne sait plus très bien si je parle du pardon donné par Jésus à moi pécheur, ou du pardon que j'accorde moi-même à ceux qui m'ont offensé. Initialement, c'est le pardon donné par le Père en Jésus. Mais comme il s'agit d'un flux, je l'accueille en le donnant moi-même. Plus exactement, je demande la grâce de pouvoir le donner moi aussi. Car ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Le Notre Père pousse le paradoxe du pardon qu'on reçoit pour soi en le donnant aux autres à l'extrême. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Refuser le pardon, c'est le refuser dans les deux sens, à autrui et de la part d'autrui, de la part de Dieu et, entre guillemets, à Dieu. Nous pouvons avoir le sentiment d'avoir à pardonner des choses à Dieu. Si ça nous vient à l'esprit, demandons à Jésus la grâce de nous réconcilier avec le Père. Ne nous tapons pas sur la tête en disant « ça ne devrait pas être comme ça, ça ne devrait pas être comme ça, ça ne changera rien ». Demandons à Jésus cette grâce de pardonner ce que nous croyons devoir pardonner à Dieu, qu'il fasse la vérité. Quand Dieu aura fait la vérité, nous verrons bien que nous ne devions rien lui pardonner. Il n'y a en lui aucun mal. Nous ne pouvons pas croire en un Dieu en qui il y a le moindre mal, ce n'est pas Dieu, il vaut mieux être athée sinon. Ce qui nous donne l'énergie de pardonner et de faire le bien malgré la méchanceté et le mal qui continue à régner dans le monde, c'est de savoir que le bonheur est bien au bout du chemin. On ne peut pas faire le bien si on ne croit pas que ça va faire du bien. Donc, le pardon rétablit le flux qui nous permet de voir que cela vaut la peine d'aimer à corps perdu. La résurrection du Christ, sa gloire sur l'image de Sontagberg, est la confirmation que le pardon aux ennemis n'est pas donné en vain. L'histoire du monde en est changée. Alors, dernier élément sur la miséricorde et la morale, excusez-moi de dépasser un peu le temps, c'est miséricorde et gratitude. Le pardon donné à ceux qui nous ont offensés produit lentement un autre effet. Il nous rend tout ce qu'ils nous ont donné au temps où nous ne faisions pas attention à eux par rancune. C'est le Fils qui, dans les bras du Père, se voit habillé, reçoit l'anneau et reçoit la maison. Il n'avait jamais fait attention à tous ces cadeaux du Père quand il est parti. Mais le pardon nous rend ce que nous n'avions même pas remarqué lorsque nous étions dans la rancune. Lorsque nous nous rendons compte, il m'a aimé alors que j'étais encore pécheur. La gratuité de l'amour de l'offensé éclate soudain, et je peux enfin recevoir tout ce qu'il a voulu me donner, et que peut-être j'avais raflé comme le fils prodigue en portant sa part d'héritage sans y voir un cadeau. La conscience d'avoir été comblée est un fruit du pardon accueilli. Je peux me laisser combler puisque cela n'est pas à mériter. Je répète. Je peux me laisser combler puisque cela n'est pas à mériter. Une relation où le pardon est vivant supprime le besoin de mériter les cadeaux d'autrui. Je peux enfin recevoir tout ce qui m'est donné. L'agir moral est alors non pas une obligation, mais une expression de gratitude. J'ai été tellement aimé, comment n'aimerais-je pas à mon tour ? La morale devient un partage et une transmission de ce qu'on a reçu. J'ai été aimé quand je ne le méritais pas. Je peux aimer ceux qui ne le méritent pas. Enfin, ouvert à la gratitude par le pardon, je peux soudain découvrir et accueillir la gratitude de Dieu à mon égard. Il sait que tout acte de bonté ou de patience est mien et que je n'étais pas obligé de le poser, et il peut me murmurer merci sous bien des formes. Je fais encore une page, mais ce n'est pas grave. Je peux ici terminer sur une jolie phrase que on a cité de la prière pour les vocations à la chapelle d'hier soir. Un des frères jésuites de la communauté ici a dit ceci. « Quand j'étais au noviciat, j'ai dit au Christ, « Jésus, tu es tout pour moi. » Et maintenant, je me rends compte que je suis tout pour lui. » C'est l'aboutissement.